Bonjour à tous et à toutes, il est 14h passé de quelques minutes, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Lindenberg, bonjour.
Bonjour.
Chloé Delhomme, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de parler de ces deux magnifiques livres, La nuit imaginaire et Pauvre folle, deux livres de cette rentrée littéraire. Hugo Lindenberg, on vous avait découvert avec Un jour ce sera vide, qui était paru en 2020 et qui avait reçu l'année suivante le prix Inter. Vous publiez cette année La nuit imaginaire, qui figure sur la liste du prix Décembre et du prix Médicis. Alors, je cite les prix pas par obsession de la distinction littéraire, mais parce que ça me permet de faire une petite transition avec vous, Chloé Delhomme. Le prix Décembre, vous le connaissez?
Oui, je l'ai eu quand j'étais petite et je suis dans le jury.
Et maintenant que vous êtes grande, vous avez eu le prix Médicis.
Oui, parce qu'on grandit aussi.
Voilà, donc c'est pas du tout les seuls points communs que je vais faire entre ces deux livres, mais voilà, quand on a plusieurs auteurs réunis, on cherche toujours des manières de les rapprocher. Le cœur synthétique était paru en 2020. Pauvre folle lui fait en quelque sorte suite, tout en prenant sa liberté et ses distances. Chloé, c'est votre presque 30e livre versus deuxième ouvrage pour vous, Hugo. Alors, ce sont à la fois deux livres qui sont très différents dans leur style, dans leur genre aussi. Néanmoins, je crois qu'on peut jeter de nombreuses passerelles de l'un à l'autre. C'est ce qu'on va essayer de faire pendant cette heure, tout en explorant leur ressemblance et leur différence. Chloé Delhomme, dans Pauvre folle, un train file vers l'Allemagne. À son bord, Clotilde Mélisse regarde le décor se déliter lentement. Là, je vous cite Hugo Lindenberg, au tout début de cette nuit imaginaire, le narrateur, lui, regarde les feuilles tomber dans le jardin du Luxembourg. Je voudrais qu'on ouvre cette discussion par ces deux tableaux, avec ce décor un peu flottant, un petit peu qui se désagrège aussi. Il y a une volonté peut-être de se soustraire au temps qui passe, de s'arracher à quelque chose.
Oui, le début du livre s'ouvre sur un personnage qui découvre un secret sur la mort de sa mère. Et en même temps qu'il découvre ce secret, il voit pour la première fois le temps passer en direct, c'est-à-dire l'automne à devenir, les feuilles tomber des arbres une à une, ce qu'il n'avait jamais réussi à observer. Et c'était une manière de montrer sa difficulté et la difficulté qu'on peut avoir, que moi je peux avoir, à parfois appréhender le présent en direct quand il se déroule et pas après dans l'écriture. Quand on repasse dessus. Et aussi pour lui, c'était une manière, il dit voilà, le temps était comme figé par le secret familial dans lequel il était pris, mais maintenant que j'ai cette révélation, est-ce que je vais pouvoir remettre le temps en route?
Et moi j'étais juste sur la fin du monde. L'objectif était d'avoir en toile de fond cette espèce de déchirure qu'on a passée, puisqu'on sait que la catastrophe écologique est définitive et inéluctable, et d'essayer de voir comment est-ce que dans un monde qui prend fin, on s'inscrit, et affectivement, et aussi parce que Clotilde est féministe, le problème de cette lutte féministe qui est au bord de réussir, mais qui aura peut-être pas le temps parce que le monde s'écroule. C'est très gai.
L'époque s'appelle trop tard, vous dites, et pourtant on a l'impression que vous allez quand même, ça ne vous accable pas pour autant, puisque vous allez partir à rebours de ce temps, en quelque sorte, à mesure que file ce train. Je vais rester un tout petit peu sur ce décor, le train, le métro, le bus, c'est des lieux qui sont très présents dans vos deux livres, chez vous Chloé, parce que c'est un huis clos ferroviaire, hein, votre livre, même si on va s'échapper par le souvenir, ça commence au départ de Paris et ça se termine à Heidelberg. Pourquoi Heidelberg déjà?
Parce qu'à Heidelberg, on m'a menti. On m'a fait croire que c'était en haut de ce château que se jetaient dans les douves en s'écrasant les jeunes gens qui avaient lu Les souffrances du jeune Werther, parce qu'il y avait une vague de suicides quand le livre de Goethe était sorti. Et quand j'ai visité le château, il y a un petit malin qui m'a inventé cette histoire. Et pendant des décennies, j'ai associé Heidelberg au suicide romantique par excellence, à une espèce de vision comme ça romantique. Et c'est une très jolie ville par ailleurs, avec un château qui est en ruine derrière, mais la façade est intacte, ce qui est assez étrange.
Hugo, le train, j'y pense parce que évidemment il y a la présence de la gare de Lyon, mais il y a aussi ce narrateur qui déambule et qui se perd un petit peu au milieu de la masse. Cette double signification pour vous, comment vous la voyez maintenant ?
Le train, il s'est imposé puisque c'était le lieu et le moyen du suicide de la mère du narrateur. Et puis il y a cette volonté pour lui de se rendre dans cette gare comme pour essayer de comprendre le chemin qu'elle a pu faire, de se retrouver dans les mêmes lieux, comme si ça pouvait rejouer pour lui quelque chose, expliquer quelque chose de son geste. Mais il y avait aussi, oui, effectivement, cette idée de déambulation que pour essayer de comprendre d'où il vient, il a besoin de prendre ce temps de retrait, de marcher. Alors là, c'est plus dans le territoire de la nuit que dans le train, mais d'avoir des moments de solitude où il déambule pour se laisser aller à ses pensées, comme quand on est dans le train et qu'on regarde ce que Freud dit, quoi, que l'inconscience est regardée à la fenêtre du train, passer les choses et en attraper un comme ça. C'est le principe de la déambulation.
Alors, on va partir du principe que quelques personnes dans cette foule nombreuse n'ont pas encore lu vos livres respectifs. Et je voulais qu'on fasse un petit portrait robot de ces deux personnages qu'on va quand même suivre de près pour qu'on sache un petit peu avec qui on va cheminer tout au long de cette discussion. Clotilde Mélis, cet alter qu'on avait déjà rencontré. Chloé, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Clotilde Mélis, j'invente en 2004, dans certainement pas. C'est mon double, elle est autrice, mais plus expée. Donc la bibliographie est déclinée de façon un peu comique. Enfin, à la place de j'habite dans la télévision, c'est j'habite dans mon frigo. Des trucs comme ça, qui ne font rire personne. Et elle est... en fait, c'est un moyen de faire de l'autofiction en ayant plus de recul. Parce qu'en fait, le jeu que j'ai usé est, vraiment pendant plein de livres sur les 29, ça peut manquer parfois d'humour, de distance, et on peut tomber... je ne sentais pas de faire un livre sur une histoire d'amour toxique au jeu, en fait, ça passait pas. Un peu comme le cœur synthétique, ça passait pas, mais parce que ça manquait de recul et que du coup on avait l'impression qu'on avait affaire à une pauvre fille. Donc j'avais besoin d'utiliser ce truchement. Mais je l'ai développé dans plusieurs ouvrages, Clotilde Mélis. Elle apparaît souvent en personnage secondaire. Il y a une pièce de théâtre où elle est personnage principal. Et là, du coup, j'en ai fait le personnage principal cette fois-ci.
Elle vit avec son chat, Citrouille.
Oui, moi la mienne s'appelle Perdition, mais c'est un peu pareil, c'est le double. Elles sont aussi zinzin l'une que l'autre. Je voulais faire du réalisme magique un peu dans Pauvre Folle, donc le chat a un rôle très secondaire, mais il a un pouvoir d'agentivité, mine de rien.
Clotilde Mélis, c'est un alter au carré, encore au-dessus du carré.
J'ai poussé les curseurs, mais on est très très proche. La ligne biographique est vraiment la même, et dans les réactions, je me cache à peine. Enfin, elle est plus poussive, mais je suis assez poussive aussi comme fille, en fait. Donc, on est un peu pareil.
Bon, on enrichira son profil au fil de la conversation. Hugo, peut-être un mot sur ce jeu qui est un personnage convexe. J'aime beaucoup cette description que vous faites.
Concave,
voilà, je savais que j'allais pas y arriver. C'est quoi les personnages convexes et les personnages concaves ?
C'est parce que c'est un garçon qui a 20 ans et qui est dans une bande d'amis. Et dans les bandes d'amis, à 20 ans, on a toujours des théories sur tout. Alors il a son amie Mona qui a une théorie sur les gens concaves et les gens convexes. Les gens concaves sont cool et les gens convexes sont un peu plus coupants. Et lui, évidemment, il est concave et il en est très content.
Il est étudiant. Donnez-nous peut-être quelques éléments auxquels se raccrocher.
Alors après, autant je pense aux personnages, tous les personnages secondaires, je les réfléchis, autant le personnage principal, c'est toujours plus un vaisseau, c'est comme un masque que je mets ou un déguisement, et puis après je navigue. Mais bon, lui c'est un étudiant qui a 20 ans, dont on sait finalement peu de choses, à part cet événement qui a une influence majeure sur sa vie, qui est le suicide de sa mère, qu'il est dans un groupe d'amis et que là il a envie un peu moins de voir ses amis pour aller prendre du champ et explorer la vie nocturne, voilà.
On a parlé tout à l'heure du temps qui s'arrête, du temps qui redémarre. Vous avez dit il a 6 ans quand sa mère se suicide à Gare de Lyon. Là, on touche à un point évidemment qui rassemble vos deux livres. Clotilde Mélisse a 10 ans, elle, quand son père assassine sous ses yeux sa mère, la met en joue avec son arme, hésite quelques secondes, l'épargne entre guillemets et retourne l'arme contre lui. Ces deux événements, c'est évidemment ce qui font de vos livres des bouteilles à la mer, si je puis dire, un message continu à l'absence, à l'absente, et une tentative de combler une béance qui est omniprésente. Ça va se faire notamment par l'écriture. Est-ce que à quel moment justement l'écriture elle précède même à précède presque à cet événement chez vous, Chloé?
En fait, je me suis rendu compte, alors que je publie depuis 2000 et que j'ai commencé à écrire sérieusement vers 98, j'ai découvert en l'écrivant dans le texte que j'écrivais pour garder ma mère vivante. J'en avais pas conscience, en fait. C'est vraiment en écrivant Pauvre Folle que je m'en suis rendu compte. Comme quoi, l'inconscient, l'écriture, tout ça, très pratique.
Oui, c'est très beau d'ailleurs, je trouve, dans le livre. Mais ma mère s'est suicidée au moment où j'ai appris à écrire. Et du coup, les deux événements sont complètement liés pour moi. J'ai commencé à écrire, et beaucoup, à partir de cet âge-là. Sans jamais me dire consciemment, j'écris pour elle ou à elle, mais quand même dans un dialogue avec l'absence. Et Chloé dit une chose très importante dans ce livre, elle dit « on se remet jamais ». Et ça, j'ai trouvé ça très beau, parce que c'est ça aussi, quand vous disiez d'écrire le personnage, et j'ai senti ça dans les deux personnages, c'est aussi de raconter des quotidiens de personnages qui vivent, qui font plein de choses, mais qui ne se remettent pas pour autant. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne se remet pas?
Oui, c'est intéressant, parce qu'à quelques mètres de là, il y a une rencontre avec Neige Sino qui parle aussi de la manière dont on survit, mais on ne se remet pas. Justement, il y a plein de rapports que vous tissez avec la littérature, notamment... il va être bouleversé, ce narrateur, par la découverte d'une photo qui va s'échapper des pages d'un livre qu'il va attraper sur une étagère. Par ailleurs, il hante et fréquente énormément les librairies. Il mêle beaucoup le désir qui va nourrir pour certaines personnes à travers justement l'intermédiaire du livre, de l'écriture ou de la littérature. Ça va être votre cas aussi dans Pauvre Folle. L'écriture est un intermédiaire entre le désir de l'autre. Comment est-ce qu'on passe de l'acte d'écrire à l'acte de raconter cet acte d'écrire ou de lire?
Ok.
Ne partez pas.
Non, en fait, je ne suis pas sûre d'avoir... Tu veux dire par rapport au fait que ce soit une correspondance?
En fait, c'est une mise en abîme aussi.
Ouais. Dans la deuxième partie du livre, quand Clotilde relationne amoureusement avec un homme qui n'est pas disponible, ils s'écrivent. Mais j'ai fait le choix de ne pas faire un roman épistolaire. Donc en fait, c'est injecté. Mais la mise en abîme est assez... presque flippante en fait dans Pauvre Folle, parce que le fait est que j'écrivais à partir d'un événement, enfin d'événements vécus autour de l'écriture, mais en parallèle le livre, je le faisais lire en cours, le manuscrit, à c'est le modèle de Guillaume Verner dans le bouquin. Donc tout était l'écriture était tout le temps là, avec des strates et des niveaux différents. C'était un peu une espèce de bulle, pas hyper saine d'ailleurs, mais une espèce de bulle où tout se nourrissait en fait en permanence. jusqu'au moment où j'ai rompu et le lien dans la vraie vie et je suis arrivée à la fin du livre pour faire la fin du livre en fait.
Peut-être que ce serait l'occasion que vous parliez, parce que ce livre il est construit autour du choc traumatique de la mort de votre mère, mais avant ça, et c'est ce que vous racontez en premier, et je trouve que c'est important de le resituer, il y a un choc esthétique qui va être l'héritage que vous avez reçu de cette femme.
Parce que moi j'ai eu la chance d'avoir appris à écrire avec ma mère, je l'ai perdue à 10 ans, donc elle a eu le temps de m'apprendre, et elle m'a fait travailler la métrique. J'étais une enfant dissipée, elle ne savait pas quoi faire de moi. Elle était prof, fallait corriger les copies avec une gamine dans les pattes qui ne cessait de poser des questions. Donc elle me faisait faire des ateliers de poésie. C'était aujourd'hui, on va apprendre l'octosyllabe et il fallait que j'écrive des poèmes. Enfin, ça m'amusait énormément. Je veux dire, c'était pas la punition, le goulag. Hein. Et du coup, le premier choc que j'ai eu avant le choc traumatique, c'est le choc esthétique, c'est la découverte de Rimbaud, c'est Ophélie de Rimbaud, et c'est un vers dans Ophélie qui est « Oui, tu mourus, virgule, enfant, virgule, par le fleuve emporté, point d'exclamation. » Et en fait, ce vers est incroyable parce qu'il y a physiquement la mort de l'enfant entre deux rouleaux de flotte, quoi. L'enfant entre deux virgules est en train de se noyer et le point d'exclamation, c'est la fin des chutes qui vont arriver. Et en fait, ça a été vraiment un effet vertigineux qui... En art plastique, enfin pour les beaux-arts, quand c'est face à une image, on a le syndrome de Stendhal, mais on n'a pas de syndrome pour le choc littéraire, le choc poétique. Et moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. J'avais 9 ans. Et je pense que ça a été vraiment déterminant. Et j'ai eu cette chance-là que, même si j'ai fouillé dans la gare des Michards et que c'est pas ma mère qui... Je pense qu'elle aurait été un peu tarée pour me mettre consciemment du Rimbaud à 9 ans sous le museau quand même. Mais je suis tombée dessus et ça a été plus que formateur. Et c'est un choc qui est à égal du choc traumatique vraiment dans la constitution et du coup dans celle de mon personnage aussi.
Et qui va être aussi d'un secours tout au long. Ce que vous dites, vous avez écrit 29 livres, c'est quand même qu'il y a un besoin d'écriture, en permanence, de maintenir ce lien entre ces deux chocs par l'écriture.
Je ne sais pas si c'est que ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a aussi le Beckett qui disait « bon qu'à ça », enfin, je ne sais vraiment rien faire d'autre à part des formes différentes d'écriture, heureusement qu'il n'y a pas que les livres. Mais il y a un besoin viscéral d'écrire et là, par exemple, très concrètement, la promo, ça va être bien que ça s'arrête dans pas longtemps parce que je peux pas être dans Word, quoi, et c'est un problème.
On va reparler de Word, c'est un petit peu votre nuit imaginaire, Chloé Delhomme. Hugo, peut-être encore un mot sur ce lien entre la perte et ce qu'on recréait par l'écriture. Votre premier roman, Un jour ce sera vide, parlait déjà d'un petit garçon orphelin. Est-ce que en rejouant ce sujet à une autre période de la vie du narrateur, pour vous, c'est une manière de maintenir un lien au-delà de la disparition ?
C'est difficile de savoir pourquoi on écrit, mais sur cette question de la fiction, il y a quand même ce fait que quand il y a un événement comme ça, ça vous projette quand même dans une fiction, c'est-à-dire que on doit quitter le fil narratif dans lequel on commençait à se construire pour partir dans complètement autre chose, et ça rend la réalité très relative, quoi. Et j'ai toujours relié ça à mon appétit pour la fiction, parce que je considérais à partir de 6 ans que ma vie était devenue une fiction. Et ainsi qu'aussi mon passé, qui était devenu une autre fiction, puisque ça s'était complètement arrêté. Et c'est un peu ce thème-là que j'ai voulu travailler dans le livre, où le narrateur ne cesse de projeter des fictions sur les gens, de se rendre compte que quand il est à la recherche de ce que lui croit qu'il s'appelle vérité, finalement, ça n'est jamais que des fictions que chacun partage, et il doit apprendre à faire avec tout ça quelque chose qui ressemblera à autre chose dont il pourra se dire « bon, ben, ce sera la fiction avec laquelle je m'accommoderai de continuer ».
Alors, parmi ces fictions, il y a la silhouette, l'ombre de sa mère qu'il croit à plusieurs reprises deviner dans les rues. Est-ce que vous seriez d'accord de nous lire un passage de votre livre qui parle de ça ?
Ah oui, il voit une femme dans un café, il observe une femme dans un café. Et il se dit, et si c'était elle, ma mère ? Si au lieu d'être morte, elle était simplement partie. Si au lieu d'être partie, elle errait de café en café, hésitant après chaque cigarette, ce soir je rentre, mais n'osant plus, ne sachant pas. Je suis son désarroi au fond de sa tasse, et la main petite, portant le café aux lèvres jusqu'au moment de la brûlure sur la langue, provoquant le retour de la femme en elle-même, du café autour de la femme, et de mon corps sur le trottoir d'où le jour s'est retiré. La main tremble vers la cigarette oubliée, déjà plus cendre que papier. La bouche aspire, donnant à la femme la possibilité de s'éclipser encore un instant derrière le voile de fumée. Reprise, réajustée, elle sourit pour elle-même, puis sourit pour déguiser son émotion, passant les doigts dans ses cheveux et sur ses lèvres immenses pour s'assurer de ses propres contours, quêtant un regard ami parmi les étudiants penchés sur leur polycopier. J'observe leurs gestes et les reflets de la rue projetés sur leurs chimères. Le balai des serveurs allant chercher le froid auprès des quelques clients attablés dehors, saluant au seuil d'une porte cochère une carrure familière, cabas chargé de provisions emballées de papier boucherie rose. Des vieilles dames en chignon, bientôt rassises dans leurs deux pièces au papier peint humide, au voilage grisâtre. Leur présence rassurante apaise le feu roulant des braguettes, bombers, cheveux peroxydés et ventres tendus, déferlant sur les pavés du marais. Entre les vieilles veuves et ce garçon en fleurs, quelle filiation silencieuse faite de portes tenues, de commissions montées dans les étages, de solitudes complices. L'engourdissement me gagne. J'enfile mon manteau, dont l'intérieur a refroidi à mon bras, et feignant de n'avoir jamais eu d'autre projet, j'entre dans une librairie quelques mètres plus loin.
Merci. Alors dans cette quête et cette projection qu'il fait de l'être absent sur bientôt d'autres corps, évidemment on pense aux promesses de l'aube de Romain Gary, hein, avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tiendra jamais. Il va rapidement chercher des refuges en fait, dans lesquels il peut essayer de remplir ce manque d'amour. Chloé Delhomme, Clotilde aussi, a différents refuges. Alors, il y a d'abord l'espace de la page blanche, de la page de Word, qui est un espace de possible. Et puis, il y a le hashish. Il y a différentes substances dans lesquelles elle va se perdre, parce que tout simplement, c'est pas possible de résister à de survivre à un tel au réel. Voilà, au réel de cette.
Modifier, ouais. Et il y a aussi le shopping.
Shopping ?
Je rattrape.
Oui. Non, ma question porte sur les refuges.
Oui, les refuges. Mais c'est quelque chose d'étrange, les refuges. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'hypnose. Hein, on vous demande votre refuge. Et j'en ai pas. J'ai que la page Word comme lieu refuge. Et Clotilde, c'est pareil, en fait. Quand j'écris le personnage, j'avais eu cette expérience d'hypnose ratée. Enfin, en même temps, c'était une très mauvaise idée parce que les psychotiques ne doivent absolument pas être hypnotisés. Mais Clotilde n'a pas de lieu refuge à part la littérature et l'écriture. Et comme elle va relationner de façon épistolaire, ça rend plus concret la relation, et finalement cette relation qui est quasiment fictive va devenir plus réelle que n'importe quelle relation réelle parce que ça passe par l'écriture.
Alors on va revenir sur la place de ces mails et l'effet que l'arrivée de ces mails provoque sur Clotilde. Un mot sur ces refuges, en fait c'est un petit peu ça le sujet aussi de ce livre, c'est cette manière quasiment frénétique de chercher des, des manières de se remplir de quelque chose, que ce soit l'alcool, que ce soit les fictions des vies possibles, je vous vois faire la grimace déjà, ou que ce soit la fréquentation des clubs du Marais la nuit. Non.
Non, mais dans le sens où, parce que ça fait plusieurs fois que j'entends, mais je trouve pas qu'il soit très frénétique, au contraire, il y va tout à fait à tâtons et très doucement, et il va plutôt y voir comment ça se passe, que vraiment se jeter, ni spécialement d'ailleurs dans la drogue, mais il cherche plus des espaces de silence et de retrait dans lesquels, voilà, pouvoir observer bien tranquillement comment fonctionnent les autres. Ou par exemple, quand il approche les corps des autres, moi c'était plus dans une dimension de... Il aimerait bien pouvoir approcher des corps juste pour ce qu'ils sont. Il y a le corps détruit de sa mère d'un côté, et puis ses corps qui sortent. Mais dans un cas comme dans l'autre, il ne peut pas s'empêcher de projeter sur eux ses fictions, son propre imaginaire. Voilà, c'était plus ça qu'une frénésie.
Il est souvent... il recherche l'ivresse, en tout cas, comme manière de décoller un petit peu du réel. En tout cas, il est plusieurs fois en état d'ébriété... avancer, mais plutôt comme une fuite.
Oui, enfin, en soi, je trouve le deuil est déjà une ivresse très forte, et au moment où le livre s'ouvre et il y a cette révélation, il se prend une vague de deuil. Et du coup, il est de toute façon dans cet état un peu flottant, donc c'est pas les quelques verres d'alcool qu'il boit qui vont spécialement le projeter hors du réel. Mais il cherche par contre à s'extraire du quotidien d'adulte dans lequel la journée essaye de le plonger, quoi. Donc c'est pour ça qu'il préfère la nuit et les fêtes que l'université.
La nuit imaginaire, c'est un titre qui en rappelle bien d'autres autour de ce terme. Alors moi, j'ai pensé bien sûr aux nuits fauves aussi. Comment est-ce que la nuit, c'est un continent noir, c'est un espace inexploré? Qu'est-ce qui peut se rejouer dans cet espace-là, dans l'obscurité, mais aussi dans ces heures où le reste du monde s'arrête?
Oui, c'était ça, parce que pour moi, c'est pas un espace noir, c'était au contraire, j'avais souvenir de la vingtaine, de la nuit, comme un territoire, plus qu'un moment, et qui était vraiment un territoire de liberté, parce que justement, les horloges s'arrêtaient, et pendant 12 heures, on n'était plus contraint de se comporter d'une certaine manière, d'avoir des projets pour la vie adulte, d'être angoissé, mais tout à coup le temps était comme arrêté, et spécialement dans les clubs où il y avait énormément de bruit, et je me sentais très très protégé du monde. C'était avant les attentats de 2015, et je voulais retrouver cette impression là de la nuit, pas comme la fête, mais la nuit comme un endroit où on a le droit de prendre une pause du réel.
Chloé, est-ce qu'on peut parler de votre rapport à la nuit comme espace métaphorique ou espace de travail référent
Moi, je suis en inversé. Enfin, je me couche entre 6 et 8 heures du matin et je me réveille vers midi 14 heures. Donc, de toute façon, la nuit m'est nécessaire. Et que ce soit sur l'ordinateur ou parce que je sors avant voir des amis ou faire des trucs. Enfin, j'investis la nuit beaucoup plus que la journée. Rien ne me déprime plus que le matin, quoi. Enfin, le matin, je ne sais pas quoi faire de ma peau si je ne suis pas en nuit blanche, hein. Enfin, je veux dire, me réveiller le matin, c'est hyper angoissant, quoi.
L'écriture, ça se passe la nuit?
L'écriture, ça se passe à peu près tout le temps, mais ça se passe surtout la nuit, oui. Surtout.
Clotilde Mélis, à la mort de sa mère, elle est placée chez une tante qui lui est insupportable en tout point et qui voit en elle une espèce de diable. Vraiment, s'il y avait une opposition clarté-obscurité, on les retrouve dans cet appartement entre la tante et la nièce.
Disons que la tante voit surtout dans la nièce le portrait craché de sa sœur avec qui c'était la guerre. Et le fait est que ma mère et ma tante qui m'a récupérée après le décès pendant les quelques années avant ma majorité, c'était difficile, j'ai mis du temps à comprendre. J'étais physiquement le portrait craché de ma mère et ma mère était excessivement hautaine avec elle. Enfin, elles avaient une différence culturelle. Après, ma mère était prof, c'était pas non plus la chef de l'ENS, hein, mais bon, disons qu'il y en avait un peu sous le capot, et ma tante avait arrêté en cinquième l'école avec beaucoup de difficultés, elle était vendeuse et elle lisait pas du tout. Et du coup, je me suis retrouvée à me faire traiter d'un télo dans mon propre foyer, parce que parce qu'elle projetait. C'était difficile pour elle, je pense, en fait. Et j'étais très, très arrogante, adolescente. Et en plus, j'essayais de me flinguer tous les trois jours, donc ça devait être difficile à gérer, je pense.
Je voudrais parler un petit peu du féminisme, qui est quand même une part très importante de ce livre, qui se manifeste de plusieurs manières, et notamment à un moment où vous dites ce qu'il faut, c'est des boîtes à outils aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on assiste aussi à une émergence d'une littérature qui, en plus d'être extrêmement littéraire, est une prise de parole pour dire certaines urgences contemporaines. Est-ce que vous diriez que vous faites partie de ce mouvement contemporain ?
Je m'y emploie, avec application, parce que c'est peut-être la seule cause qui m'a toujours parlé. Enfin, dès mon premier texte, il y a des salves féministes, on appelle ça comme ça. Et c'est le seul point où je peux me sentir utile, en fait. Ne serait-ce que sur remettre en perspective ce que c'est que le féminicide. Ou quand j'ai écrit Le cri du sablier en 2001, c'était un épiphénomène. C'était pas le mot féminicide est rentré dans le dictionnaire en 2015. À partir de ce moment-là, on comprend qu'on n'a pas affaire à un acte isolé de crime passionnel maboule, mais que c'est vraiment l'acmé d'un système, d'un mécanisme de violence patriarcale appliqué dans le foyer, et qu'en France, tous les deux ou trois jours, il y a une femme qui tombe. Donc c'est pas le même. Et du coup, oui, je me sens un peu investie. C'est important pour moi, c'est très important.
Alors, il y a un certain nombre de faits très concrets, des chiffres que vous arrivez à injecter de manière très habile dans cette histoire. Mais il y a aussi le langage lui-même, la langue comme outil pour nommer les choses. Par exemple, je pense, quand vous faites cette réflexion sur uxoricide et féminicide, et tout un tas de termes qui ont peut-être émergé récemment, mais qui permettent de nommer et de faire exister certaines choses. Le travail de l'écrivain, c'est aussi ça, c'est de se servir de ça.
Je crois que c'est fondamental, ça. Ce qui n'est pas nommé n'existe pas. On s'en est rendu compte il y a quelques années avec le terme sororité, avant qu'il rentre vraiment, on n'arrivait pas à se penser en solidarité féminine parce qu'on n'avait pas le mot, on l'avait oublié. Féminicide, encore une fois, on le pense différemment maintenant qu'on le nomme, et je pense que si nous on fait pas le boulot, après faut pas se plaindre, quoi. Il faut, ouais.
Hugo, dans votre livre, on assiste au surgissement d'un groupe qui s'appelle l'autre groupe. Est-ce qu'on peut, vous pourriez nous dire un mot là-dessus?
Alors, effectivement, il tombe sur une photo de sa mère où il voit des visages de femmes qu'il n'a jamais connues, qu'il va essayer de retrouver pour qu'elle lui raconte un peu qui était sa mère, en essayant de chercher des réponses. Et il se trouve que c'est un groupe de femmes psychanalystes qui s'appelle l'autre groupe, et duquel elle aurait fait partie. Je crois que à travers ça, il y avait la référence au quatrième groupe de Pierre Aulagnier, mais au-delà de ça, c'était de raconter un peu ce moment post-68 où les grandes espérances qui étaient nées de 68 pour certaines personnes déchantent un peu dans les années 80, et comment ils essayent malgré tout de continuer ça autrement par des lieux de parole encore et d'action. Et selon une des amies qu'elle rencontre, sa mère serait aussi peut-être morte d'avoir pas su réinventer l'espérance ou l'enchantement, quoi, et de cette espèce de gueule de bois que Romain Goupil raconte très bien dans Mourir à 30 ans, par exemple.
Il y a d'autres références littéraires dans votre livre, notamment Guillaume Dustan, et des références, alors je dirais pas militantes, mais en tout cas à une réalité qui appartient. Alors il a son pins ACT UP quand il
attaque.
Vous Du coup, ma question fonctionne plus.
Si, si, non, 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 mais il y a un truc avec. C'est le libraire qui a un t-shirt ACT UP, mais c'est Silence également. Oui, parce que ça, c'était qu'il il arrive un peu dans. Ça se passe à peu près au tout début des années 2000. Et justement, vous parliez de frénésie tout à l'heure, et donc je faisais ce que vous disiez, la grimace, parce que je me, à cette époque de ma vie, moi, quand j'avais 20 ans, justement, j'ai découvert du stand. Ça m'a vraiment beaucoup impressionné, et dans l'écriture, et dans l'énergie que ça portait. Mais par contre, le destin homosexuel que ça pointait pour moi m'effrayait complètement parce que j'aimais la poésie et j'étais très prude. Et tout à coup, il y avait cette frénésie, cette manière de parler de sexe extrêmement crue. Et du coup, dans ce livre-là, je lui rends une sorte d'hommage, mais un contre-hommage, parce que même si, par exemple, je reprends cette idée de traverser une fête en direct, pratiquement caméra à l'épaule, qui m'avait beaucoup impressionné dans Je sors ce soir, mais mon personnage, il cherche quand même à garder une certaine poésie et à approcher justement... cette trivialité qui est la vie, qui est l'amour, mais avec une certaine poésie et justement pas du tout dans cette espèce de frénésie très crue. Et aussi, il arrive à un moment dans ce monde-là, au moment où les trithérapies viennent d'émerger et où du coup il y a eu cette espèce d'épidémie affreuse qui a tué pratiquement... grande quantité de personnes dans le milieu homosexuel et il arrive dans une culture comme ça qui ne comprend pas très bien et notamment ce lieu industriel de ce club où il va, le hangar, il ne comprend pas tous ces codes, voilà, et ça c'était important pour moi. Et lui effectivement il porte un pins attack, il vient de et il découvre ce monde ACT UP et ça m'intéressait aussi de voir comment il se confrontait à que son désir l'emmenait aussi vers une culture, une histoire, des enjeux politiques qui lui échappaient complètement.
Alors peut-être que quand je parlais de frénésie tout à l'heure, pour moi c'était plutôt c'était pas tellement dans les actes, mais dans ce désir insatiable de comprendre et de trouver des raisons. Alors peut-être que frénétique n'était pas le bon mot effectivement, mais en tout cas de projeter sur d'autres visages, sur d'autres vies, quelque chose qui lui a échappé à lui. Et bien sûr quand je parlais du refuge, je parlais aussi du hangar qui est comme un refuge pour ce personnage. Je voudrais qu'on dise un mot notamment sur tous les autres types, parce que les relations charnelles et amoureuses occupent une place importante dans vos livres, mais pas que, il y a aussi l'amitié qui est extrêmement présente et qui est un contrepoint justement à ces relations amoureuses en cul-de-sac parfois. Dans le cas de Clotilde, son groupe sororal, on l'avait déjà rencontré dans le cœur synthétique, on retrouve ces personnages qui s'élargissent puisqu'on en accueille un nouveau.
Wilfried, l'ami gay qui, étant gay, est en capacité de voir que la cible de Clotilde, qui est gay aussi, mais qui est plutôt bi en fait, enfin, on dirait pansexuel peut-être maintenant, il arrive à voir ce que c'est que l'homophobie internalisée chez le personnage. Enfin, ça permet un point de vue que les filles ne pouvaient pas avoir. Et dans la vraie vie aussi. Donc, comme je fais des décalques.
Dites-nous quelques mots sur l'homophobie internalisée.
C'est-à-dire qu'en fait, il a honte. Il a honte d'être gay. Et donc, du coup, il a besoin d'être validé par le regard d'une femme. Et c'est là que les personnages sont tous en dissonance cognitive, ou enfin, c'est compliqué pour tout le monde dans l'ouvrage.
Ce groupe d'amis qui est un pare-feu en fait, qui est vraiment le cercle familial hein, presque. Pourquoi c'est si important pour vous de le faire figurer ainsi de livre en livre?
Je crois que c'est important parce que ça l'est pour moi et que, on parlait des outils féministes tout à l'heure, c'est pas féministe particulièrement, mais un peu quand même, c'est-à-dire que c'est aussi un palliatif génial au célibat en fait. Et après avoir écrit Le cœur synthétique, je trouvais que c'était important qu'on voit un personnage de femme célibataire qui est prise dans une tourmente effectivement sentimentale, mais qui avant que ça déboule avait un équilibre réel, profond, stable, juste avec l'amitié et la sororité, parce que c'est le cas dans la vie, et que je trouve important qu'on ne court pas après obligatoirement un modèle obligatoire conjugal pour se sentir plein, en équilibre, etc.
Hugo, 20 ans, c'est l'âge où on remplace la famille par les amis, où on fait famille avec ses amis. Alors remplacer quand on en a très peu déjà, c'est, ça va encore plus vite. Ce narrateur a des relations pas très riches avec son père. Il y a une scène qui est assez glaçante de retrouvailles au café. Mais il a ce cercle d'amis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, qui sont des très beaux personnages secondaires?
Oui, j'avais, en écrivant, je pensais beaucoup au Faux-monnayeur de Gide, où on voit comme ça un groupe d'amis au sortir du lycée, du baccalauréat, qui va passer un été décisif pour leur vie. Alors lui, c'est un hiver, mais il a un groupe d'amis qu'il a du lycée et qui est suffisamment solide justement pour qu'il puisse prendre du champ, pour aller vivre ses expériences, pour être pas toujours le plus sympa ou de la meilleure humeur ou disponible pour eux. Mais il y a toujours ces moments où on se croise, il se passe quand même quelque chose dans l'étincelle de la rencontre. C'est un livre sur la rencontre. Voilà, s'il y avait une frénésie, je voulais dire, ce serait une frénésie de la rencontre. Et ils se voient aussi devenir un adulte dans leurs yeux à eux, dans les réactions qu'ils peuvent avoir à certaines choses qu'ils font. Et aussi, c'est ce moment où leurs relations prennent un tour un peu plus sérieux que ce qu'elle était au lycée, où il y a des actes qui peuvent vraiment, ou des relations qui peuvent se nouer dans des choses plus fortes. Et puis aussi, des camaraderies. Je pense à son ami Armand, où tout à coup il voit qu'il y a peut-être des choses un peu plus graves qui se nouent pour lui, il s'inquiète pour un ami, mais c'est la première fois que ça lui arrive. Voilà. Et ce passage comme ça des amitiés adolescentes aux amitiés adultes, c'est quelque chose que je trouvais joyeux à décrire.
Il y a une amitié ancienne qui refait surface, c'est le personnage d'Élie.
Il a cette espèce d'ami un peu idéal, idéalisé, comme j'avais fait dans le dernier roman. Je ne fais pas exprès, mais je fais toujours une espèce d'ami presque imaginaire qui serait celui de la complétude, avec qui on pourrait faire de grands projets et qui serait toujours bienveillant. Sauf que là, ça tourne mal parce que cet ami devient fou. Et du coup, ça redouble pour lui la trahison de la folie, du suicide de la mère. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se croit en sécurité, la souffrance psychique, donc lui qui a voulu nier que sa propre souffrance, tout d'un coup, c'est celle de son ami Élie qui vient lui rappeler qu'il faudra toujours composer avec ça.
Chloé, j'aimerais un petit peu quand même qu'on dise un mot sur ce fameux Guillaume, puisqu'on tourne autour depuis tout à l'heure, mais laissons-lui une petite place. Clotilde va vivre une passion avec Guillaume. Quelle forme prend cette passion? Je vais vous laisser en parler.
Dans un premier temps, 10 ans avant que l'histoire commence, dans la backstory qui est racontée, il y a un chapitre là-dessus, elle le rencontre à la Villa Médicis, ils relationnent tout à fait normalement, enfin avec un côté très passionnel et très dramaturgique, avec une mise en décor de toute chose. Et puis ça se passe très mal, et il revient 10 ans après frappé dans sa boîte mail, et elle retombe dans le panneau. Voilà, que dire?
Alors dire, on l'a dit, que Guillaume est peut-être bisexuel, peut-être homosexuel, en tout cas pas tout à fait son genre, comme dirait Proust. Et c'est dommage, puisqu'elle va beaucoup s'en passionner de lui. Ça va devenir ce qu'on peut appeler une relation toxique pour elle, oui. Puisque ça n'amène à rien à part à la faire tourner dans son bocal. Par contre, ce que ça va lui amener, c'est de grands moments d'érotisation littéraire. Hein.
Ouais.
Puisqu'il y a des rencontres charnelles, mais leur passion se passe essentiellement via mail interposé.
Oui, les allants passent par l'émotion esthétique. Et c'est un livre sur le déni aussi. C'est un livre sur les mécaniques psychologiques qui poussent le cerveau, même organiquement parfois, à bloquer, à friser, à rejeter, à scotomiser. C'est un livre très psychologique. Peut-être parce que la sociologie, j'en ai ras le bol.
Alors, j'ai choisi un passage voilà, où on va voir à quel point Word est une zone érogène. Ouais, ça va.
Alors, pour bien saisir la profondeur du vertige qu'éprouva Clotilde en lisant le mail de Guillaume, son rapport à l'oubli, ses formes d'amnésie se doivent être évoquées. Clotilde oubliait tout, ce qui n'est pas étonnant, attendu qu'elle avait jusqu'à ses 32 ans voué un culte aux Xanax et fumait depuis toujours comme un joueur de djembé. Une mémoire altérée, l'hippocampe en charpie. Elle avait peu de souvenirs de ce qu'elle avait écrit, ses livres lui échappaient aussitôt achevés. N'en demeuraient que les grandes lignes et quelques sensations. Aussi avait-elle oublié avoir nommé Guillaume ce personnage secondaire, ce qui l'amenait sincèrement à ne strictement rien comprendre face à ce retour soudain. Alors si c'est de moi dont vous parlez, page tant, paragraphe tant, permettez-moi de m'émouvoir. Mais de quoi s'agit-il ? Elle se leva direction l'étagère vérifiée dans le livre, le feuilletat, et son corps se changea en menhir, ce qui inquiéta Citrouille à cause des fissures sur le parquet qui se propagèrent jusqu'au divan. Clotilde lut dans son roman ce prénom qu'elle pensait effacer à jamais par la force de sa volonté, réalisa qu'elle avait oublié l'avoir écrit pour lui offrir encore cette transgression ultime, crut voir son inconscient lui cracher au visage. C'était un acte manqué. Clotilde en faisait peu, généralement très peu. De la même manière, elle ne somatisait presque jamais. Son inconscience tenait tranquille la plupart du temps. Tout du moins, elle croyait-elle. Les actes manqués résultent d'une intention, un désir inconscient s'en retrouve assouvi. Clotilde, à cet instant, dut s'avouer qu'au fond d'elle, le souvenir du monstre était resté vivace, son envie d'aller lui tragiquement impérissable, au point que ses propres bronches soufflaient dans un appeau. Découvrir qu'une part d'elle appelait cet amour mort à la résurrection, ça lui fit donc l'effet d'héberger dans sa tête une entité néfaste, parfaitement masochiste. Oui, parce que j'avais oublié, en fait, j'avais oublié. Mais parce que ça m'est arrivé. C'est-à-dire, donc j'ai bien oublié. En fait, Clotilde a utilisé le prénom de Guillaume, alors que ça fait 10 ans qu'il ne se parle absolument plus et qu'elle l'a enterré au plus profond de la terre, loin d'elle. Elle a utilisé le prénom Guillaume pour un personnage secondaire d'un de ses livres, enfin du dernier livre, en étant absolument persuadée que personne ne s'appelait comme ça dans son entourage.
Ça vous est arrivé ?
Bah oui, et quand il est revenu en disant la même chose, à savoir, oh là là, je suis dans le livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de ma poule ? Et quand j'ai égrené, dans le cœur synthétique, il y a plein de prénoms masculins pour les personnages secondaires, vu qu'Adélaïde se tape des râteaux tout le temps, donc il faut bien qu'il y ait des garçons pour se taper les râteaux, et j'avais égrené tous les prénoms en disant, ah oui, alors ce prénom-là... Oh, au pire, c'est le frère d'un de mes ex d'il y a longtemps, c'est pas grave, j'avais complètement...
Oui, ben, c'est pas des personnages toujours très flatteurs, très flattés, non, donc...
Non, mais c'est juste que le cerveau... Enfin, l'inconscient fait des trucs, quoi.
L'inconscient fait des trucs, ça c'est sûr. Peut-être, on arrive à la fin de la discussion, je voudrais conclure peut-être sur quelque chose qui va permettre de tout faire passer un petit peu dans le chat de l'aiguille. Quand je prépare ces rencontres, parfois j'écoute d'autres choses, ce que vous avez pu dire avant, et en écoutant Hugo Lindenberg à la radio, alors c'est pas pour balancer sur mes confrères, mais il y a quelqu'un qui vous a demandé, qui vous a dit, mais finalement vous rapprochez ces deux sujets qui sont a priori très éloignés, que seraient Eros et Thanatos. Alors ça fait le... Je ne pense pas qu'ils soient très éloignés. Enfin, d'ailleurs, on parle rarement de l'un sans l'autre. Est-ce que, finalement, est-ce que la ligne d'écriture, ça permet de les faire coexister, justement, sur un même fil ?
J'étais content de voir chez Chloé, effectivement, où elle dit ça. Bah, tu dis un moment complètement... pour sortir de ça, elle avait dû aller vers... Il fallait l'amour, et l'amour, c'est la fiction, d'ailleurs. Et le... C'était pas une décision consciente vraiment au début. Il y avait ce territoire de la nuit du suicide, et lui qui devait refaire toutes ses nuits. Et puis une phrase qui me hantait un moment, c'était « Que doit être un corps pour ressusciter ?» Et comme si pour conjurer le corps qu'il avait abandonné, ce corps qui s'était détruit volontairement. Il avait besoin d'aller vers les corps. Et c'est aussi une question du désir, puisqu'elle l'abandonne aussi, sa mère. Il y a une absence de désir pour lui. Enfin, elle ne désire plus vivre, mais donc elle ne désire plus être mère. Et donc il est aussi travaillé par cette question du désir à ce moment-là. Et donc j'imagine ça s'est lié comme ça dans ce fameux inconscient dont on parlait tout à l'heure. Et au moment de l'écriture, c'était pas une décision, mais c'est venu immédiatement dans ce nouage-là, lui, mais c'est sa colonne vertébrale, d'ailleurs.
Chloé, est-ce que vous pouvez réagir?
Oh non, je pense qu'il a... c'est joli. On peut finir là-dessus.
Merci beaucoup à tous les deux. Je crois qu'on a quelques minutes. S'il y a des questions, je ne sais pas si c'est prévu. Si, c'est prévu. Ouais. Alors, vous avez à peu près 3 minutes si vous souhaitez... Autrement, j'en profite pour dire que nos auteurs et notre autrice vont s'asseoir juste là pour signer leurs ouvrages. Donc, si vous ne les avez pas encore lus, je vous invite et je vous encourage à vous les procurer. Non, pas de questions. Bah, écoutez, c'est bonne. Merci d'être.
Merci.
Merci Chloé Delos et Hugo Lindenberg.